Radio Campus Tours, 99.5 FM.
Anaïs, bonjour Anaïs.
Bonjour.
Raphaël.
Bonjour.
Pauline qui est derrière moi, qui vous dit bonjour aussi. Et Nicolas Souris, directeur de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme. Vous êtes également journaliste, maître de conférence. Et nous avons aussi Bastien. Bonjour.
Bonjour.
Donc, tu es étudiant à l'EPJT.
Tout à fait, en troisième année en licence professionnelle journalisme, spécialité radio.
Très bien. Alors, je laisse la parole à mes camarades.
Alors, Nicolas, déjà, Souris, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Campus Tours. On aurait tout d'abord une première question sur les changements de formation pour l'année scolaire 2018-2019. Quels sont-ils et pourquoi avoir fait ces choix ?
Bonne question. Alors, quels sont-ils ? En fait, il y a un changement majeur et puis un changement qui découle de ce changement majeur. On ouvre un master de journalisme à la rentrée prochaine, donc en septembre 2018. Ça, c'est une nouvelle offre pédagogique hein, à laquelle on réfléchit depuis plusieurs années maintenant parce que c'est un projet qui est complexe à mettre en place. Et puis, conséquence de cette nouvelle offre pédagogique, eh bien, les cursus que nous proposons depuis 50 ans pour l'un et depuis 17 ans pour l'autre, à savoir le DUT et la licence professionnelle, vont disparaître. Alors ça va être lycée sur une année, hein, c'est-à-dire que l'année prochaine, ceux qui ont démarré le DUT cette année vont évidemment poursuivre le DUT. Ceux qui sont en deuxième année de DUT vont pouvoir faire une licence professionnelle l'année prochaine. L'année spéciale de journalisme continue aussi l'année prochaine, hein, qui est une année qui permet de faire le DUT en un an et non pas en deux ans, donc qui s'adresse à des étudiants qui ont déjà un bagage universitaire. Mais à partir de la rentrée 2019, il n'y aura plus que le master de journalisme à l'EPJT. C'est un master qui est rattaché à la faculté des lettres et des langues, mais qui se fera dans les locaux de l'IUT, puisque vous en êtes témoin d'ailleurs aujourd'hui. L'ensemble de nos studios, radio, télévision, multimédia, l'ensemble de nos rédactions, l'ensemble aussi des enseignants hein, qui sont partie prenante du cursus en journalisme sont à l'IUT. Donc on reste ici, c'est notre histoire, l'IUT, on reste à l'IUT, mais les étudiants seront rattachés à la faculté des lettres et des langues.
D'ailleurs, je crois que l'on avait une question pour les étudiants, enfin du moins les lycéens.
Alors oui, donc on est tous les deux en terminale et on voulait intégrer le PJT, mais du coup, on ne pourra pas faire ça l'année prochaine.
Vous avez parfaitement compris.
quelle licence vous nous conseillez de faire en attendant ?
Alors je pense que c'est la 85e fois qu'on me pose la question aujourd'hui et c'est une vraie question, vous avez entièrement raison de la poser. Alors moi j'ai toujours à peu près la même réponse, il n'y a pas une licence type pour faire du journalisme. Tout type de licence, puisque un master, il faut avoir validé un bac plus 3. Ça, c'est la seule contrainte, je dirais, universitaire hein, pour prétendre rentrer dans un master 1, c'est avoir validé ou être en cours de validation d'une L3. Mais moi, je dirais que faites d'abord un parcours universitaire qui vous plaît. C'est ça le plus important, parce que on va pouvoir entendre ici et là que bah, pour être un bon journaliste, il faut faire sciences politiques, par exemple. Alors, il y a des très bons journalistes qui ont fait sciences politiques avant un master en journalisme. Et puis, il y a de très bons journalistes qui n'ont pas du tout fait sciences politiques. Ça n'empêche pas qu'ils soient de très bons journalistes. Donc, si les maths, vous adorez, faites une licence de maths. Si la biophysique, vous adorez, faites une licence de biophysique. Si l'histoire vous passionne, faites une licence d'histoire. Si c'est la géographie, si c'est les langues, si c'est le droit, si c'est le sport, faites STAPS. Ce qu'il faut, c'est que vous preniez plaisir dans votre premier parcours universitaire, qui va être le L1, L2 et L3. Quelle que soit la discipline universitaire, parce que si vous prenez plaisir à étudier, vous aurez des bonnes notes, vous aurez de bonnes méthodologies de travail, des bonnes méthodologies de recherche, donc vous serez des étudiants potentiellement intéressants pour intégrer le journalisme. Ça, je dirais que c'est le discours. Et c'est ce que j'encourage, moi, à faire pour les lycéens. Après, si on regarde les statistiques des autres masters, notamment, on sait très bien que la plupart des étudiants en journalisme, en master de journalisme, sont passés plutôt par les sciences humaines que par les sciences dites dures. On a assez peu de journalistes qui ont un parcours en maths, en physique, en chimie, en biologie. Je dirais même qu'on n'en a pas assez. Ça manque dans les rédactions, ces parcours-là. Donc, en majorité, on sait qu'on aura des candidats de sciences humaines, histoire, géo, lettres, droit, sociologie. Mais nous, ce que l'on veut, pour le master de Tours en tout cas, c'est d'élargir au maximum le spectre des disciplines universitaires dans nos promotions. On manque d'économistes, on manque de scientifiques. dans les rédactions. On a, ça va faire mal à certaines oreilles, mais on a trop de politistes dans les rédactions, parce que le problème, c'est que s'ils sont tous formés de la même façon, ben, ils voient le monde tous de la même façon, ils ont la même analyse des situations, et donc on a une sorte d'uniformité de l'information qui n'est pas bonne. Donc plus les parcours sont divers et variés, meilleur est le recul sur l'information, et donc meilleur est le traitement de l'information. Donc faites ce qu'il vous plaît.
D'accord, merci.
Et d'ailleurs, Bastien, toi, quel a été ton parcours avant d'arriver à l'EPJT ?
Bah, tout simplement, moi, j'ai fait un bac L avant d'arriver à l'EPJT. Pas de prépa, pas de première année de licence. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer directement l'EPJT en DUT. Donc, sur la diversité de parcours, c'est vrai que c'était un peu restreint. On en avait quelques-uns qui avaient fait une prépa littéraire. D'autres avaient déjà une année de licence Mais on retrouvait quand même des diversités de parcours parce que dans ma promotion, il y a plusieurs types de baccalauréats. Il y a des bac L, il y a des bac S. Je sais que dans d'autres promotions, enfin, je parle sous votre contrôle, mais il y en a qui ont été dans une INSA. Donc, globalement, les parcours sont nombreux et on voit qu'en effet, il n'y a pas de parcours type pour être journaliste.
D'accord. Et tu es en quelle année ?
Moi, je suis en troisième année.
Troisième année.
En licence pro.
Et est-ce que tu envisages un master, justement, pour l'année prochaine ?
Moi, non. Je sais qu'il y en a qui l'envisagent, mais moi, à titre personnel, non, parce que moi, je me suis très vite destiné à des études courtes. C'était quelque chose qui m'intéressait, le circuit court, parce que là-dessus, on fait DUT LP, c'est d'avoir un cursus assez court et donc rentrer plus vite dans le métier. On prenait plus de temps par rapport aux autres qui voulaient faire un master dans les autres écoles reconnues. Donc moi j'envisage très vite de travailler. Moi faire un master c'est pas dans l'immédiat, c'est pas quelque chose que je souhaite.
Je vous en prie, Nicolas Cerise.
Oui, pour compléter ce que dit Bastien, c'est très important évidemment. Quelqu'un par exemple qui va faire la licence chez nous de journalisme, on le prendra pas en master parce qu'elle fera la même chose. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a quelques cursus de journalisme qui sont reconnus par la profession. Il y en a 14, précisément. Il y en a, jusqu'à présent, il y en a 3 qui sont à un niveau Bac plus 2. C'est l'IUT de Lannion, l'IUT de Cannes et l'IUT de Tours, donc le DUT. Il y en a un qui est à un niveau Bac plus 3, c'est notre licence professionnelle, hein, puisque les Lannionnais et les collègues de Cannes ont une licence, mais qui n'est pas reconnue par la profession. Et puis, tout le reste, c'était à un niveau master ou Toulouse master, donc anciennement maîtrise, Bac plus 4. Mais en réalité, on a le même contrat pédagogique. On le fait à des niveaux de diplôme différents, mais on a la même base pédagogique que l'on soit en master ou que l'on soit en DUT aujourd'hui en France. Je parle des cursus reconnus. Donc Bastien, comme ses camarades de licence, n'aurait strictement aucun intérêt à faire un master de journalisme parce qu'il referait la même chose que ce qu'ils ont fait en DUT puis en licence. Donc le but d'une licence professionnelle, c'est d'aller travailler après. Tout comme le but de notre master, ce sera ensuite d'aller travailler. Hein. La logique n'est pas de poursuivre des études après une licence professionnelle. Après une licence classique, oui, mais après une licence professionnelle, ça n'a pas de sens.
D'accord, très bien, merci pour ces informations. On peut peut-être passer maintenant différentes actualités de l'EPJT, en particulier sur le Phatoscope. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quoi consiste ce site ?
Oui, alors Phatoscope, c'est une belle aventure hein, qui a débuté il y a un an et demi hein, maintenant. Il y a un an et demi, tout ça, tout à fait. Il y avait une actualité politique importante qui ne vous a pas échappé, évidemment. C'était l'année dernière, l'élection présidentielle en France. Et depuis quelques années, on voit fleurir dans les rédactions des équipes dédiées ou en tout cas des journalistes dédiés à ce qu'on appelle le fact-checking, la vérification des faits, hein, littéralement, qui en réalité est une façon de confronter la parole politique aux faits, à la réalité. Donc quelque chose que l'on fait a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a un homme ou une femme politique qui s'exprime dans une matinale, par exemple à la radio, qui va nous dire, qui va nous donner des chiffres, qui va nous apporter des analyses chiffrées. Le boulot, ça va être de confronter ce que la personne a dit à la réalité. Donc aller chercher si, oui ou non, ce qu'il ou ce qu'elle a dit est réel, est vrai ou est faux ou est imprécis. Et donc, nous, avec les licences presse écrite bimédia, on a décidé avec Laurent Bigot, hein, qui est le véritable porteur du projet, de proposer à nos étudiants une sorte de page blanche autour d'un projet sur le fact-checking. Avec quand même quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous, on avait travaillé. La première piste, c'était de travailler à ce qu'on appelle une agrégation de l'ensemble du fact-checking en France. Il y a plein de rédactions qui font du fact-checking, mais il n'y a aucun site en France qui agrège tout ce fact-checking-là. C'est-à-dire que chacun fait le fact-checking de son côté, en quelque sorte. Et donc, nous, on s'est dit, à Tours, on va créer un site où on peut aller chercher des papiers issus d'un travail de vérification des faits, que ce soit Europe 1 qui l'ait fait, que ce soit Le Monde qui l'ait fait, que ce soit Libération, que ce soit Le Figaro, tous ceux qui ont des cellules dédiées au fact-checking. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, on a dit à nos étudiants, vous-même, vous allez faire cet exercice-là. Et donc, on a des conférences de rédaction régulières toutes les semaines pour essayer de voir quelles sont les paroles publiques, politiques qui ont marqué l'actualité et sur lesquelles on peut travailler. Donc ça, c'était, je dirais, la première piste de travail, c'est permettre à nos étudiants de faire leur propre fact-checking et d'aller chercher ce que font les autres pour avoir une entrée la plus large possible du fact-checking en France. Alors, une entrée soit thématique, par exemple, qu'est-ce qui s'est dit sur la politique agricole ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, il y a une entrée thématique agriculture, par exemple. Ou alors, on voulait s'intéresser à l'époque à ce que disait un des candidats à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il a dit, quelle que soit la thématique qu'il a abordée. Ou alors, on voulait s'intéresser à qu'est-ce qui a été dit et qui est faux. Ou qu'est-ce qui a été dit et qui est vrai. Donc voilà, donc il y avait toutes ces portes d'entrée-là sur le site. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que depuis quelques années, on a la chance d'avoir un blog qui est hébergé par Le Monde, le journal Le Monde, donc sur lemonde.fr, qui est un blog qui travaille sur l'actualité politique selon les élections. C'est-à-dire qu'on a fait un blog sur quand il y a eu des élections régionales, quand il y a eu des élections européennes, quand il y a eu les municipales. Et là, on s'est dit, on va coupler le blog du Monde au site Factoscope. Et donc, finalement, le blog du Monde nous permettait de compléter ce que l'on faisait sur le site. Et puis, troisième piste de travail qu'on a suggérée aux étudiants, et ils y ont plongé avec, beaucoup de plaisir, on leur a dit essayer d'être novateur dans la façon dont on peut traiter le fact-checking. C'est Bastien s'en rappelle, hein, puisqu'il était en deuxième année l'année dernière, et c'est les deuxièmes années de DUT qui ont eu à travailler là-dessus, dans le cadre d'un module un peu plus large qu'on appelle journalisme et innovation. Et donc, il y a un petit groupe de J2 qui a dit on va essayer de créer une application, un news game, comme on appelle en bon français, un jeu de fact-checking. Et pour ça, on a demandé à des étudiants de Polytech, spécialistes en informatique, qui, eux, vont plutôt travailler dans tout ce qui est informatique lié au secret bancaire, par exemple, n'ont rien à voir avec le journalisme. Hein. On leur a dit, venez travailler avec nous, avec nos étudiants en journalisme, et ensemble, inventer une appli plutôt ludique pour jouer au fact-checking. Et donc, finalement, Factoscope, c'est trois choses. C'est le site Factoscope, c'est le blog du Monde, et c'est l'application, alors pas qui n'est présente que sur Android, hein, qui n'est pas présente sur environnement Mac. Et donc c'est un beau projet qui a mobilisé plein d'étudiants différents et qui nous a permis de gagner notamment trois prix, deux prix universitaires et un prix professionnel.
Et d'ailleurs, en parlant de blog, les étudiants, je crois, en DUT, ont à faire un blog personnalisé sur le thème de leur choix. Est-ce qu'il est possible d'en parler?
Oui, je pense qu'on peut en parler. Oui, les blogs, quand on nous avait annoncé ça, c'était un petit peu particulier. On se demandait à quelle sauce on allait être mangé parce qu'on nous avait présenté comme cobaye d'une expérience, si je ne me trompe pas.
Et vous étiez cobaye, oui.
On était cobaye. Et donc oui, l'avantage, c'est qu'on avait été très libre de traiter le sujet que l'on souhaitait. Alors, ça a été difficile un peu au début, mais certains ont très vite trouvé leur thème de prédilection. Moi, c'était le handball professionnel dans le Nord-Ouest. Ça peut paraître un peu abscon comme ça, mais c'est, en fin de compte, ça a été très passionnant. Et ça a permis, quelque part aussi, ça permet d'apprendre à se débrouiller un peu seul, avoir sa rigueur personnelle, ce qui est très important dans ce métier d'ailleurs, savoir être rigoureux, savoir se poser des deadlines, savoir se fixer quelques challenges aussi. Par exemple, moi, je me parlant de handball, l'année dernière, c'était le championnat du monde en France. Et je m'étais dit que ce serait bien quand même d'aller interroger quelques joueurs qui allaient faire ce championnat du monde. J'ai pas eu les Karabatic et tout ça, mais j'ai réussi à voir des internationaux. Et moi, ça m'a fait, j'ai vécu des super moments grâce à ça. Donc, on peut vraiment prendre du plaisir en le faisant. Et donc, ces blogs étaient notés. C'est un travail pédagogique, mais fallait pas le voir comme une contrainte, en fait. Fallait vraiment le voir comme un objet de respiration un peu personnel. L'essentiel, c'est de se faire plaisir sur ce blog et bien choisir son thème. Parce qu'il y en a quelques-uns, j'en connais un qui avait dû tout réorienter. Bon, il a complètement décollé il a réussi à décoller sur son site, mais il faut le prendre vraiment comme un outil pour prendre du plaisir.
Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres activités faites par les étudiants à la PJT, comme par exemple la matinale sur Radio Campus Tour, faite tous les vendredis de 7h15 à 8h15. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'y participer ?
Cinq fois, pas plus, mais c'était intéressant parce que moi je me suis très vite intéressé à la radio et on m'a toujours dit que la matinale c'était un peu le Graal, comme pour les journalistes de télévision, c'est un peu de présenter le JT, on m'a toujours dit c'est un peu le Graal, donc oui, il faut se lever à 4h du matin parfois, faut préparer, c'est du travail, mais c'est aussi du plaisir. Moi je l'ai pas souvent fait parce que j'avais aussi, c'était pas forcément ma priorité, mais la matinale de l'EPJT, je peux... Déjà, rien que pour se confronter un peu à la radio, se confronter au micro, c'est pour apprendre à poser sa voix, avoir une écriture spécifique, parce que la radio, c'est vraiment un exercice très particulier. Je ne peux que conseiller d'aller à la matinale radio.
D'ailleurs, Nicolas Cerise, vous êtes spécialisé en radio. Quelles sont vos attentes vis-à-vis justement de vos étudiants lors de cette matinale et de cet exercice ?
Comme le disait Bastien, prendre du plaisir d'abord, hein, parce que c'est un espace de liberté, de création. Ça permet aussi aux étudiants de mesurer leur appétence pour la radio, parce que c'est un média très spécifique. Hein. La radio, on peut ne pas être à l'aise, hein, derrière un micro, et on ne peut pas le reprocher aux étudiants. C'est essayer d'écrire différemment, d'écrire pour être écouté, hein, raconter une histoire en radio, c'est pas la même chose qu'en télé, c'est pas la même chose qu'en presse écrite, donc c'est une écriture très particulière, et on le dit souvent, et c'est vrai, c'est un métier qu'on apprend sur le tas. Donc multiplier les expériences, c'est toujours très enrichissant d'un point de vue pédagogique, même si c'est vrai que nous, la matinale de Radio Campus, on n'a pas les moyens de mettre en place un suivi pédagogique derrière, mais je sais que tous les ans, il y a beaucoup d'étudiants qui participent à la matinale. Pour certains, c'est une révélation, parce que c'est d'abord une découverte de la radio, puis une révélation. Pour d'autres, ça leur permet de prendre du plaisir, mais de se dire, ben, finalement, la radio, c'est pas mon truc. Tant mieux qu'ils l'ont découvert grâce à la matinale de Campus. Et puis, ça leur permet de travailler sur l'actualité, d'écrire des chroniques. Hein. Nous, sur nos sessions radio, on est très hard news, on est très flash et journaux d'information, on est très peu chronique. Donc, c'est un espace supplémentaire, je dirais, d'écriture. Radio, ça permet effectivement d'apprendre à encore mieux poser sa voix. Ça permet de se confronter aussi à la technique, parce que Radio Campus aussi, c'est maîtriser de A à Z l'émission. Hein. C'est pas qu'être derrière le micro, c'est être derrière la régie. Donc des apprentissages supplémentaires qui ne peuvent être que bénéfiques pour nos étudiants.
Et dernière activité aussi dont j'aimerais parler, c'est le cycle de conférences qui a lieu justement, qui a eu lieu tout au long de l'année, dont la dernière est, il me semble, à la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine, oui. À 17h, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors là, c'est pareil, c'est comme on a toujours peur que les étudiants s'ennuient. On leur prévoit plein de projets, et notamment parmi les projets que l'on a chaque année, c'est on demande aux étudiants de préparer un cycle de conférences sur des thématiques évidemment liées au journalisme, alors que ce soit un prisme plus économique, un prisme plus sociologique ou un prisme autour des pratiques professionnelles, à la limite peu importe. Et donc en première année, ils commencent à réfléchir à des thèmes de conférences. Et en deuxième année, ils mettent en place les conférences. Alors, ça veut dire quoi mettre en place une conférence ? Ça veut dire d'abord se documenter sur la thématique que l'on va traiter, hein, savoir ce qui a été dit, ce qui a été écrit, ce qu'on a pu entendre sur cette thématique-là, repérer les personnes qui peuvent être intéressantes à inviter pour venir participer, parce qu'on parle de conférences, mais ce sont plus des tables rondes en réalité que des conférences. Donc on a toujours 3-4 invités à chaque fois. Donc repérer les bons interlocuteurs, ensuite préparer ce qu'on appelle une trame de la conférence, hein, quels angles on va davantage aborder que d'autres, parce qu'on peut pas tout dire pendant une conférence ou pendant une table ronde. Donc ce que vous connaissez bien vous ici en radio, ce qu'on appelle un conducteur. Hein, de la conférence ou de la table ronde, et puis faire vivre cette conférence, être confronté aussi aux soucis matériels. Ça veut dire qu'il faut prendre les billets de train pour les personnes, il faut régler ça avec le secrétariat pédagogique, faire vivre la conférence le jour de la conférence, et puis rendre compte derrière de la conférence. Donc ils font un petit compte rendu et vidéo et papier sur ce qui s'est dit. Bien évidemment, l'objectif derrière, c'est de continuer à réfléchir sur notre métier, ce qui fonctionne moins bien, quelles sont les pistes que l'on ouvre dans notre métier de journaliste, réfléchir aussi aux modèles économiques. Hein, puisqu'il y a certaines conférences qui s'interrogent plus spécifiquement sur comment faire vivre un site web, par exemple. Hein, on sait qu'il y a peu ou pas de modèles économiques, sinon des modèles payants pour faire vivre un site web. Donc voilà, ça permet aussi aux étudiants de nourrir leurs réflexions sur ce qu'est le journalisme, ce que sont les défis du journalisme. Parfois, certains prennent prétexte aussi de cette conférence pour construire leur mémoire de recherche. Puisqu'à la fin de leur cursus, ils ont un mémoire de recherche à faire, toujours lié à une problématique sur le journalisme. Donc ça peut être aussi un bon tremplin pour le mémoire de recherche. C'est aussi un moyen de, comme on dit, de réseauter. Parce qu'on prend contact avec plein de monde. Donc voilà, on a les 06, comme on dit, ou les 07 maintenant de beaucoup de monde. Et donc, on se crée aussi un réseau, ce qui permet ensuite de décrocher des stages, de décrocher des CDD, d'être connu dans les rédactions. Donc voilà, tout ça fait que à partir de quelque chose qui est très réflexif au départ, ça permet de faire grossir son réseau de connaissances dans le monde du journalisme. Est-ce que j'ai bien résumé, Fabien? Bastien.
Oui, vous avez bien résumé.
Une question plus d'étudiants, Bastien. Ouais. Est-ce que vous avez un BDE et comment s'organise la vie associative à l'EPJT?
Oula, alors là ça, vous me posez une petite colle. Alors il y a l'ADJ, l'association autour du journalisme, qui s'occupe de faire quelques soirées. Ils organisent aussi, et j'ai une pensée pour eux, le voyage pour ce qu'on appelle le tournoi de foot inter-école de journalisme. Donc c'est eux qui organisent ça. On fait quelques animations entre nous. Donc oui, l'ADJ organise des choses, souvent des soirées entre les différentes promotions, parce que on ne s'ennuie jamais, hein, l'OPJT, Monsieur Souris. Et on a certaines ils font des soirées interpromo parce qu'on n'a pas forcément le temps de se croiser entre différentes promotions, entre les premières années, deuxième année, parfois troisième année, et les années spéciales. Donc ils créent ces grands moments communs où on peut vraiment se retrouver dans un cadre un peu plus détendu.
Tournoi de foot d'ailleurs qui a lieu ce week-end, il me semble, à Strasbourg.
C'est en ce moment. Week-end,
je sais qu'ils ont gagné ils ont gagné un match et ont perdu un deuxième. Je ne sais toujours pas s'ils sont qualifiés parce qu'il fallait attendre le résultat d'un match. On croise les doigts pour eux.
Nous aussi. Et j'aurais une question, notamment sur les journées portes ouvertes. Est-ce que vous... pas du tout. Sur les assises du journalisme, est-ce que vous avez un atelier particulier par rapport à cet événement?
Oui, alors on a, c'est même plus qu'un atelier, hein, on est un partenaire important des assises du journalisme, hein, qui ont lieu cette année du 14 au 17 mars au Vinci. On délocalise une rédaction avec l'ensemble des étudiants de deuxième année, donc une rédaction pour faire un quotidien. Déjà, on fait un quotidien sur les 4 jours que durent les assises. On fait aussi, on alimente un site internet dédié qui s'appelle assises.epjt.fr, assises.journalisme.epjt.fr. Et puis, on a un plateau télé aussi que l'on construit sur place, qui nous permet de faire des interviews télé qu'on encapsule en 3 minutes et qui sont diffusées ensuite sur le site web et sur les réseaux sociaux. Donc ça mobilise 25 étudiants. On a 2 rédacteurs en chef qui viennent les épauler. C'est Guillaume Launay, qui est rédacteur en chef de Libération.fr, et Antonin Chilot, qui est rédacteur en chef adjoint du Parisien.fr. On a aussi un ou une chef d'édition. Alors, je ne peux pas vous donner son nom, parce qu'on ne sait toujours pas qui va venir. On avait prévu de travailler avec quelqu'un, mais qui va devoir, pour des raisons professionnelles, ne pas annuler. Donc, on aura un ou une chef d'édition. Et on a aussi la chance de bénéficier de l'aide et de Elodie Hervé, qui est une journaliste de LCI, qui est actuellement en résidence de journalisme ici à Tours, et qui va épauler les étudiants sur des productions vidéo, notamment le samedi 17 mars, pendant le Salon du Livre. Donc ça, je dirais que c'est le gros morceau de ce que l'on peut faire aux Assises. Par ailleurs, on anime une table ronde et un atelier de recherche cette année. Alors la table ronde, c'est une sorte de provocation dans le titre en tout cas, puisqu'on va se poser la question, est-il utile de former au journalisme ? J'aurais tendance à penser que oui, sinon je perds mon job. Et l'atelier de recherche, on va s'interroger sur les limites du fact-checking, puisqu'on a présenté ça il y a quelques années comme l'alpha et l'oméga du journalisme. Non, il n'y a pas que du positif dans le fact-checking. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, on se rend compte après étude que lorsque vous confrontez une personne à ce qu'on appelle une fausse information, et ensuite à un papier qui a fact-checké la fausse information et qui nous dit « voilà la véritable information », eh bien, il y a davantage de personnes qui retiennent la fausse information que ce qui a été fact-checké sur la fausse information. Donc voilà, on va s'interroger sur les limites aussi de cet exercice de fact-checking autour d'un atelier de recherche. Et puis cette année, mais là c'est spécifique à l'année 2018, on va fêter nos 50 ans, puisque la formation journalisme a été créée en 1968, en même temps que l'IUT. Et donc, la troisième soirée des Assises du journalisme sera consacrée aux 50 ans de la formation au journalisme à Tours.
Alors, est-ce que vous auriez quelques conseils pour justement des étudiants qui voudraient passer le concours pour l'année spéciale ou pour le master, en particulier pour le master, vu que c'est une nouveauté pour l'année prochaine?
Bah, des conseils, oui, évidemment, on en a plein. Le premier conseil qui est d'ordre impératif, c'est d'avoir un bac plus 3. Ça, voilà. Ne venez pas tenter le concours si vous êtes bachelier ou si vous êtes en L1 ou en L2. Après, moi, ce que je conseille plusieurs choses. D'abord, idéalement, on aime que les candidats aient pu éprouver leur motivation à faire du journalisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pendant leur cursus, avoir rencontré des journalistes qui leur ont parlé de leur métier. Parfois, avoir fait un stage dans une rédaction, ça c'est très bien. Alors, c'est pas facile de trouver des stages quand on est lycéen ou quand on est sur un premier cursus universitaire, mais c'est bien de pouvoir faire des stages dans des rédactions parce qu'au moins, ça permet de ne pas trop fantasmer le métier de journaliste. Parce qu'il y a des jeunes qui se rêvent grands reporters à la sortie de l'école. Non, une carrière de journaliste, ça se construit. Donc, des stages, ça permet de voir c'est quoi le quotidien d'un journaliste en local, en national, à la télé, à la radio, en presse écrite, sur un pure player ou sur un site web. Ça, c'est bien. Alors, on a des jeunes, par exemple, et je trouve que c'est une magnifique expérience, qui sont correspondants local de presse pour un titre de presse quotidienne régionale. Par exemple, ici, à Tours, à La Nouvelle République. Pour d'autres, ça va être à Ouest-France, à Sud-Ouest, à La Dépêche du Midi, aux Dernières Nouvelles d'Alsace, peu importe, selon la région dans laquelle ils vivent quand ils sont lycéens ou quand ils sont jeunes étudiants. Ça va être aussi, quand on est étudiant, aller à Radio Campus. Hein, c'est aussi une opportunité d'essayer de jauger de votre appétence ou pas pour le journalisme. Évidemment, on cherche des jeunes qui sont très curieux, hein, qui s'intéressent à plein de choses. On veut pas des encyclopédies vivantes, hein, mais des jeunes qui s'intéressent à ce qui les entoure, au monde qui les entoure, à ce qui se passe à 5 km de chez eux comme à 5000 km de chez eux. Hein. Donc, des jeunes qui aiment écouter la radio le matin, qui aiment lire la presse, qui regardent la télé, qui s'intéressent à ce qui se passe sur le web. Donc, des jeunes très ouverts, très curieux. Et puis, on va être très exigeant sur le niveau d'anglais. Dans nos recrutements, notamment pour le master, on va exiger des jeunes candidats qu'ils aient un bon, voire un très bon niveau d'anglais, car une partie de la formation se fera en anglais. Alors, il y aura des cours d'anglais, de langue anglaise, hein, évidemment, mais il y aura aussi des cours en anglais, et non pas d'anglais. Il y aura des TD d'économie des médias, par exemple, en anglais. Il y aura un cours sur un panorama et une lecture de la presse anglo-saxonne. Et il y aura des sessions professionnelles en anglais. Ça veut dire qu'il y aura des journalistes anglophones de radio qui viendront faire des sessions radio avec nos étudiants. Donc, tout se fera en anglais. L'idée, c'est qu'ils puissent aussi travailler en anglais, hein, quel que soit le support de spécialité qu'ils vont choisir. Donc voilà, une ouverture d'esprit, un bon niveau en anglais. Évidemment, ça paraît évident, mais il faut le dire quand même, un bon niveau en français. hein, parce qu'on se rend compte que chez les étudiants, la maîtrise de la langue française parfois laisse un peu à désirer. Donc, parfaitement s'exprimer en anglais, parfaitement écrire en anglais, mais aussi parfaitement s'exprimer en français et parfaitement écrire en français, ça c'est évidemment indispensable. Et puis, une belle motivation, de belles personnalités. Hein, c'est ce qu'on cherche aussi. Ce que l'on veut, c'est que chacun enrichisse les autres dans les promotions. Hein, on veut pas des robots. Hein, on veut des jeunes qui ont des expériences différentes, qui ont des parcours différents, qui ont des sensibilités différentes pour que la promo s'enrichisse de tout ça.
Eh bien, merci de votre présence. Merci Nicolas Cerise. Merci à toi aussi d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Nous sommes toujours sur Radio Campus Tours 99.5.